Comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Bonjour et bienvenue dans Comme un lundi en deux mots et pas trois, en douze mots et pas stress et en français et pas toi, belaouen patès, enfin ça on verra.
Comme un lundi, c'est de la musique, des chroniques, des entrevues, des annonces, des brèves et des pas mûrs. Et aujourd'hui au programme, on reviendra pour commencer sur la manifestation du 7 juin dernier avec Bérangère qui a couru après des vélos pour nous parler du train.
Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros.
On en a gros.
On causera Café Paysan avec Will qui a joint l'ADR, l'utile à l'agréable, pour un café paysan ou une tisane paysanne, c'est selon vous.
Se mettre ensemble pour avancer et pour se battre collectivement, c'est la plus belle chose qui soit... pour avancer et individuellement, et socialement, et sociétalement.
Et pour finir sur une note plus légère, on parlera jeux de société avec le Glouz Festival qui aura lieu cette semaine à Albi.
Non, Liliane, Ox, ça n'existe pas. Non, d'accord, ça t'aurait fait 30 points avec le mot compte triple, mais ça n'existe pas. Tu fais de l'anti-jeu, Liliane. À chaque fois, c'est la même chose. Bon, bah joue Alexandre, parce que t'attends.
Ma foi, comme un lundi, frais dans la matinée, soleil l'après-midi, la recette des sports d'hiver réussie.
Et d'abord, on commence par une énigme pour vous, chers auditeurs et chères auditrices. Alors, j'ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et 1 œil. Qui suis-je? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour chercher et trouver. Nous vous donnerons la bonne réponse à la fin de ce magazine. Et pour commencer, en musique, on va écouter un titre de Rose. Ça s'appelle « Jeu de société », mais « jeu J-E ». Alors, rien à voir avec notre salon du jeu, mais bon, le titre était tout trouvé. On écoute donc ça et on se retrouve juste après sur Radio Albigès.
Faire du shopping pour que ça clique sur la photo de ton club. Faire la cuisine pour Instagram. Surtout bien faire marrer les gens. Se distinguer, mais dans le rang. Garder un certain standing. Jamais se la jouer bling bling. T'attends qu'on voit, qu'on te comprenne, qu'on te suive et que l'on t'aime. Tu postes ce qui t'arrange, et c'est ce qu'on dira de toi au bout du compte qui comptera. Une mère bien ancrée dans son siècle, qui se renseigne bien sur internet, sur ce qui est permis ou interdit. Surtout s'habiller sexy. T'attends qu'on voit, qu'on te comprenne, qu'on te suive et que l'on t'aime. Un être complet. société. Tu construis rien de beau, toi tu joues à l'ego. Tu sais plus qui tu es. Un jeu de société, un jeu de société.
C'est toujours comme un lundi sur Radio Albitzès. Bon appétit si vous êtes à table.
On va manger des chips.
C'est chouette ça.
T'entends ? Des chips !
À présent, on s'attaque au premier sujet, la mobilisation des cheminotes, cheminots et de tout leur soutien. La dernière action en date, c'était à Albi, le 7 juin dernier. Bérangère y était, on écoute son reportage.
Examinez calmement le sujet de la transformation de la SNCF en société nationale à capitaux publics, comme le préconise le rapport Spinetta, ce n'est donc pas s'attaquer à un tabou, c'est même l'inverse d'une privatisation.
Aujourd'hui, les gens disent « mais oui, mais ça ne fonctionne pas ». Oui, ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est clair et net. Nous, on ne veut pas de la SNCF comme elle est aujourd'hui. On veut une SNCF de demain qui marche correctement et qui est un service pour les usagers, pas une entreprise rentable pour des actionnaires. En fait.
Le statut à la SNCF est cependant particulièrement rigide. À l'avenir, à une date qui sera soumise à la concertation, il n'y aura plus de recrutement au statut.
Les mecs qui nous font ça, ils gagnent 20 fois ce que nous on gagne. C'est eux les vrais privilégiés. Quoi.
Je demande donc à la direction de la SNCF de nous présenter avant l'été un projet stratégique d'entreprise pour aligner ses coûts sur les standards européens, améliorer la polyvalence des métiers, mieux organiser le travail.
Et en fait, eux, ils veulent la disparition du service public.
C'est finalement être prêt à relever le défi de la concurrence en France.
On l'avait annoncé lundi dernier, les cheminotes et cheminots sont en grève depuis 2 mois pour défendre un service public ferroviaire efficace au service des usagers avec des moyens humains et financiers suffisants, expliqué dans un communiqué Sylvain Artigot, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT du Tarn. Communiqué qui lançait un appel à rassemblement le jeudi 7 juin à la gare d'Albi-Madeleine, dont la fermeture et dont la suppression du personnel est prévue pour le 1er juillet prochain. Bérangère s'est rendue à ce rassemblement. Voici des extraits de cette prise de son un peu chaotique car il y avait pas mal de monde et d'animation.
On a la chance parmi nous d'avoir le collectif Marche ou Grève qui est quand même parti de l'Ariège jusqu'à l'Elysée où il a été reçu. Mais j'aimerais qu'ils viennent faire partager un petit peu leur aventure. Je pense qu'on pourrait les applaudir aussi.
Bravo !
Donc voilà, on est parti pas loin. Le 9 avril, on est parti pendant un mois pour faire une marche jusqu'à Paris pour rencontrer des personnes de l'Elysée. On a été reçu au bout de notre marche par 2 conseillers. Donc on n'a pas de doute sur ceux qui nous attendent, ils veulent vraiment privatiser la SNCF hein, et ça craint vraiment pour nous, donc il faut vraiment continuer à se battre, il faut qu'on lâche rien. Et c'est pas que pour nous, c'est aussi tout ce qui se passe ailleurs, dans les hôpitaux, les écoles, parce que tout au long de notre marche, on a vu la France à long, à large et à travers, on a vu que ça allait mal un peu partout, notamment dans le monde rural. Donc il faut continuer à se battre, il faut rien lâcher les gars. On lâche rien !
Bon, déjà, merci à tous, merci de nous avoir invités pour cette marche, parce qu'on adore ça. Et voilà, ce que je voudrais dire, c'est que sur la traversée donc, de la France, on a rencontré énormément de solidarité de la famille cheminote, mais pas que. Et c'est ça que veut péter le gouvernement. Il veut péter cette solidarité qu'on a entre nous. Ça les fait chier, parce qu'on se serre les coudes et ça les emmerde, quoi. Donc, après, ce qui va les déstabiliser, c'est bien sûr le pognon. Donc à Paris, on a été invité par un député de la France Insoumise qui nous a dit « Là, le gouvernement commence à se poser des questions parce que le PIB vient de chuter de 0,1%, donc suite à la grève donc, des cheminots et pas que. Et si on les touche par le pognon, ça les déstabilisera. Donc de toute façon, la lutte continue, ça on en est tous conscients. Et puis ben, on se serre les coudes, on continue quoi, et essayer d'aller motiver un peu aussi tous les copains qui ont un peu oublié tout ça et qui ont repris le boulot quoi. Voilà, toute l'importance est là pour nous aujourd'hui. Mais bon, on est là aujourd'hui tous ensemble et on continuera. Merci.
Bonjour, alors je suis le plus vieux marcheur. Donc, alors ce que je veux dire, là ça fait 2 mois que l'action elle est en route, tous les 5 jours, il y a 2 jours de grève. Et je pense, avec mon œil extérieur de retraité, qu'il faut passer à autre chose. Parce que la loi, elle est passée au Sénat, à l'Assemblée nationale. Et il faut vraiment, à mon avis, il faut passer à autre chose. Alors je ne sais pas quoi, hein, mais il faut trouver des formes d'action pour... il faut toucher l'économie, en fait. Parce que tant qu'on ne touchera pas à l'économie, on n'arrivera pas à avoir quelque chose, je ne pense pas. Il faut vraiment se mettre dans la tête que... là, si on ne bouge pas plus fort avant fin juin, j'ai bien peur que ça s'arrête comme ça. Donc, on ne lâche rien ! Ouais !
Salut à tout le monde, les Albigeois, Cap de Nacoa et tous ceux qui sont venus de la région. Il y avait une action qui était prévue aujourd'hui à Toulouse, hein, c'est vrai. Et on a trouvé important de venir à Albi, parce qu'Albi, c'est... ben, c'est une première forme de convergence, un petit peu, intergare entre cheminots. D'ailleurs, il y a une gare qui ferme aujourd'hui ici, mais il y en aura plein partout en France. Et ce soutien du département, des régions, en général, de tous ces cheminots qui viennent, je trouve que c'est important et on donne une bonne voix, en fait. C'est une bonne initiative, c'est une excellente initiative, et j'espère que demain, on sera assez nombreux tous ensemble pour aller se battre à chaque fois qu'il y aura une gare qui va fermer quelque part. Qu'on se rejoigne, qu'on fasse cette unité et cette convergence des cheminots, parce qu'on parle de la convergence des luttes un peu partout, mais déjà, il faut que les cheminots convergent. Et aujourd'hui, les Albigeois, ils nous montrent la voie, et j'espère qu'on va continuer. Alors continuons ensemble, et on marchera avec vous.
Pour retrouver les marcheurs de Marche ou Grève, et non pas de la République en Marche, c'est sur marche-ou-grève.over-blog.com. Bérangère a ensuite rencontré un cheminot en grève, toujours lors du rassemblement des cheminots à la gare de la Madeleine à Albi. Tendez bien l'oreille, il y avait beaucoup de bruit ambiant.
Vous êtes cheminot en grève ?
C'est ça.
Et sur Albi, on en est à...
Moi, je suis à Albi Madeleine.
Ouais. Et le taux de grévistes, c'est 100% de grévistes ?
Peut-être pas 100%, mais nous, on n'est pas loin de 60-70% sur le secteur.
Et depuis, vous avez commencé depuis le début ?
Ah ouais, depuis,
donc
le
ça fait...
depuis le 3 avril.
Ne marche pas !
Et alors là, quand je regardais les caisses de grève, elles sont bien alimentées. Je crois qu'on est à 1 100 000 et quelques. Vous savez comment ça va se répartir après ?
On a déjà des brochures qui sont sorties, en fait. Où on met notre nom, matricule, le nombre de jours de grève qu'on a fait, on fournit notre fiche de salaire et tous les justificatifs prouvant comme quoi on a fait tant de grève. Et la répartition se fait au prorata des jours de grève faites par les gens.
Et vous avez déjà reçu un peu d'argent
Pour l'instant, non, toujours pas, mais on ne fait pas entre guillemets la grève pour recevoir de l'argent.
Ouais.
Maintenant, les dons sont faits, donc on se doit de les recevoir des gentils donateurs et du soutien. Et après, je pense que chacun est libre de les reverser, soit à qui veut bien, ou alors d'en profiter pour payer les factures.
Ouais, parce
les
que c'est ça, là, c'est compliqué depuis le 3 avril de faire des grèves régulières.
C'est compliqué, mais utile.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien que c'est le dernier combat qui sera mené par les cheminots en tant que on va dire entreprise d'État. Après, ça va être beaucoup plus compliqué de se battre de toute façon quand on sera en société anonyme.
Ouais, on est dans des contrats plus précaires.
C'est ça.
Et là, vous y croyez ? Vous pensez que c'est un combat qui peut encore être gagné ?
On reste motivé. C'est-à-dire qu'après, y croire, on ne sait pas, on ne peut pas vraiment savoir. Je pense que l'État s'entête, mais les cheminots vont s'entêter aussi, puisque de toute façon, comme on vous dit, c'est le dernier combat. C'est-à-dire que de toute façon, si on laisse faire cette ESA, ici, par exemple, sur Albi, et voire d'Albi à Rodez, c'est la fermeture de la ligne. C'est-à-dire que le service public n'existera plus. On paye de plus en plus d'impôts, mais en fait, on a de moins en moins de services. Donc, En fait, si vous voulez, nous, de toute façon, on va se battre jusqu'à la fin.
Et vous arrivez à discuter avec d'autres services publics, l'éducation, l'hôpital, pour essayer. Bon, ils étaient là pour prendre la parole. Est-ce que vous avez réussi à vous organiser là pour faire ces grèves régulières? Alors, ça ne se met pas en place dans les autres services publics.
Si vous voulez, le service public, comme les hôpitaux par exemple, eux, ils ont un vrai service c'est minimum. Compliqué. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même assez compliqué. Après, nous, on est présents, ils le savent, ils ont le calendrier, ils connaissent nos actions, on communique. Après, on essaie de rallier un maximum de personnes ou d'être présents sur les organisations qui sont faites par les autres organismes. Après, libre à chacun de venir ou pas. Enfin voilà, je veux dire, la cohésion est là quand même, la cohésion existe. On aimerait qu'elle soit toujours plus forte, ça c'est un fait, hein. Mais elle est là et elle existe.
Oui, là c'est une belle manifestation.
Je pense qu'aujourd'hui on a quand même tapé fort.
Et au niveau des usagers et usagères, ça râle, vous avez du soutien?
Non, les gens se sont habitués. Les gens se sont organisés, se sont habitués. Ils sont au courant que le combat à mener est compliqué. Ils aimeraient aussi le mener au sein de leur entreprise, mais c'est pas possible apparemment pour eux. Et ils nous soutiennent en fait pour la majorité. On a toujours quelques raids.
Ouais, il y a toujours des râleurs, mais majoritairement c'est plutôt.
C'est plutôt bien suivi et bien pris. Ouais.
Et avec l'arrivée de l'été, là, vous l'envisagez comment?
La poursuite et la conduite.
Vous êtes prêt à continuer à...
Ah oui, on ne tergiverse pas sur le mouvement. Et s'il faut le durcir, on le durcira.
Et vous avez connu les grèves de 95
Non, moi j'étais pas encore dans l'entreprise à cette époque-là. Mais apparemment, la grève a été beaucoup plus courte que celle-ci.
Ouais.
C'est plus intense, mais plus courte. Donc, c'est pas du tout le même combat. On ne se bat pas, entre guillemets, pour la même destruction du service public.
Et là, c'est plus difficile de mobiliser parce qu'il y a déjà beaucoup de contrats précaires. C'est l'une des causes de la plus grande difficulté qu'on a à mobiliser par rapport à 1995, par exemple.
Alors, la mobilisation, en fait, suivant les chiffres qui sont annoncés, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vérifier tous les chiffres qu'on vous envoie et qu'on vous annonce, dans le sens où nous, c'est relativement suivi. C'est-à-dire qu'il y a un taux de grévistes qui est près du triple de ce qu'on annonce sur les médias. Et aujourd'hui, il y a zéro train et ça continuera comme ça. C'est-à-dire que la mobilisation est très haute et restera très haute. Donc attention aux chiffres qu'on vous envoie dans divers médias.
Ce qu'on voit dans les médias, ouais, c'est pas forcément le reflet.
Représentatif de la localisation.
Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève. C'est quoi la grève? Hey! Petit cheminot, où es-tu? Petit cheminot, que fais-tu? Petit cheminot, que penses à moi? Besoin de toi. Hey!
Merci à Bérengère pour ses prises de son effectuées le jeudi 7 juin à la gare Albi Madeleine. Pour aider les cheminots en grève, vous pouvez verser à la cagnotte de Sudrail sur www.lepotcommuntoutattaché.fr et chercher la caisse de solidarité aux cheminotes et cheminots, ou encore sur www.letchi.com, et il faut chercher la cagnotte solidarité avec les cheminots grévistes. Retrouvez le reportage d'Anaël Verzo, Anatole conducteur de train à Saint-Lazare, cheminot le train-train de vie de Nanty, dont on a entendu un extrait en début de sujet, sur le site la-ba.org. Prochaine journée de mobilisation, le jeudi 14 juin prochain, les retraités de la fonction publique organisent partout en France une journée d'action. Et dans le Tarn, l'intersyndicale appelle à 11h30 le matin devant l'hôpital d'Albi.
Petit cheminot, où es-tu? Petit cheminot, que fais-tu? Petit cheminot, pense à moi. Besoin de toi. Hey! Petit cheminot, I love you. Petit cheminot, I need you. Petit cheminot, ne me laisse pas. Chante avec moi. La 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 la.
Merci à Bérengère pour ce reportage. À présent, on va parler des cafés paysans avec Will qui a joint Benoît Pagès de l'association ADEART, l'association issue de la Confédération paysanne dans le Tarn qui organise ses rendez-vous.
Oh, ben ça c'est pas sûr du tout. Hein. En tout cas, c'est toujours l'émission Comme un lundi sur Radio Albitzès, l'hebdo avec tout ce qu'il faut. Quel pessimiste ce Clo-Clo, je te jure.
Quand les militants de la Confédération paysanne ont fauché les OGM, ce type d'action a permis au grand public de comprendre ce qu'étaient les OGM.
Le syndicat Confédération paysanne a eu 30 ans en 2017 et n'entend pas en rester là. Son pendant associatif, l'ADEAR, propose notamment de créer des liens entre paysans et paysannes et citoyens et citoyennes, non paysans. Oui, parce qu'on est censé être tous citoyens, mais pas encore tous paysans. Allez, on va parler de la Déart, la Déart du Tarn, avec un T.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras-le-bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces.
Nous sommes en ligne avec Benoît Pagès de la Déart, ou la Déart plus exactement. Benoît Pagès, bonjour.
Bonjour.
Alors on est en ligne avec vous aujourd'hui pour présenter ou représenter aux auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas la Déart. Et la Déart du Tarn, donc la Déart. Qu'est-ce que c'est, Kézako, que ce sigle un peu barbare?
Alors la Déart, c'est une association donc, qui est issue de la Confédération Paysanne. Donc, elle a été créée donc, en 92 par des paysans qui souhaitaient en fait installer des jeunes agriculteurs pour, dans le but de maintenir des campagnes vivantes. Et donc la Déart du Tarn, donc, c'est pour ça qu'il y a un T à la fin de la Déart, et fait partie d'un réseau national qui est le réseau des FADEART. Et donc on peut retrouver dans chaque département, dans 60 départements français, en fait des ADEART qui accompagnent des porteurs de projets dans l'installation agricole pour selon la charte d'agriculture paysanne et donc les valeurs d'agriculture paysanne.
La conf, on rappelle, c'est la Confédération paysanne qui a une histoire, c'est un peu la gauche de, on va dire, de l'échiquier politique agricole.
C'est ça. C'est la Confédération paysanne, ça fait depuis des années qu'elle porte le message attention, nos campagnes se désertifient, attention, il faut remettre du lien entre les consommateurs et les producteurs. Attention, il faut garder un tissu économique rural qui soit dynamique et viable, et pour ça il faut installer des jeunes agriculteurs parce que derrière découle une préservation de l'environnement parce que ce sont des petites fermes qui vont implanter des haies et donc voilà, derrière l'installation agricole découle en fait tout un système agricole qui va vraiment dans le sens de ce que demande aujourd'hui le consommateur.
Dans le paysan, il y a le pays, c'est-à-dire que des gens qui s'occupent du paysage, du pays, de ce qui se passe sur la terre, sous la terre, etc.
On installe des paysiculteurs.
Voilà. Vous avez une action auprès des paysans et des porteurs de projets, mais vous avez aussi une action toute l'année sur envers le public pour justement sensibiliser, et notamment donc là vous proposez ce mercredi 13 juin à 20h30 à la laiterie de Saint-Juéry, un café paysan, donc à entrée libre. Qu'est-ce que c'est qu'un café paysan? Comment ça se passe, un café paysan?
Alors, un café paysan, c'est un moment où différents partenaires, différents acteurs de l'installation agricole peuvent échanger et discuter sur la problématique de l'installation. Ce mercredi soir, à la laiterie, on a choisi en fait d'interpeller les politiques, hein, les citoyens et les gens qui veulent s'installer, les porteurs de projets, autour de la question, mais l'installation agricole... Exactement, qui décide de l'installation agricole? Est-ce que les citoyens, en fait, peuvent exprimer leur volonté vis-à-vis des collectivités territoriales, des communautés des communes, des mairies, sur ce qu'ils veulent avoir comme paysage autour d'eux? Et donc, en fait, on essaie de voir les attentes des uns et des autres sur un territoire et de les faire communiquer entre eux. Ce mercredi soir, le 13 juin, à l'atelier, c'est l'occasion pour que les gens puissent se parler entre eux et que chacun voit, en fait, les contraintes que peuvent avoir les uns et les autres.
Donc c'est ce 13 juin, mais il y en aura d'autres, j'imagine, un peu tout au long de l'année. Donc on l'a vu autour, par exemple, des problématiques autour de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec le gouvernement qui demandait des projets individuels aux porteurs de projets agricoles sur la ZAD. Donc vous, l'ADR, vous êtes sur une autre problématique, mais quand même se pose la question de ces néo-ruraux, ces gens qui veulent changer un petit peu de vie et revenir faire leur retour à la terre. Est-ce que vous accompagnez des gens dans des projets individuels, des projets collectifs? Est-ce qu'il y a des dispositifs pour des projets collectifs?
Donc on accompagne en fait tout porteur de projets qui soient issus du milieu agricole, mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de personnes qui ont 40 ans, qui ont envie de se réorienter. Ils ont eu une vie précédente où ils ont travaillé souvent dans l'industrie. C'est souvent des personnes qui sont hautement qualifiées, qui ont des bac plus 5, bac plus 8, hein, qui viennent nous voir. Et donc, ils souhaitent s'installer soit seuls, soit un projet collectif, et donc devenir paysan, donc au terme d'une sorte de seconde vie. On les reçoit, on les accompagne pour chiffrer un petit peu le projet, pour savoir les besoins de formation qu'ils auraient, pour débroussailler, leur expliquer en fait le fonctionnement de l'agricole, hein, sur des aspects aussi juridiques, hein, sur des aspects de gestion, sur des aspects de réglementation. Et ensuite, sur la partie collectif, on les accompagne aussi en partenariat avec d'autres organismes qui vont travailler aussi sur comment communiquer ensemble, comment arriver à éviter des écueils qu'il y a dans le collectif, ne pas arriver en fait entraver, on va dire, l'installation du collectif. C'est souvent des non-dits en fait. Au moment de l'installation, si vous voulez, enfin, on a toujours une vision idéale, oui, au moment de s'installer. Et puis en fait, au moment de faire, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des choses qu'on croyait que l'autre pensait, et puis en fait, c'est pas.
Vous êtes là un peu donc pour tirer les verres du nez un peu de tout le monde pour que le projet soit vraiment collectif, quoi.
Que les gens puissent discuter entre eux, y compris des choses qu'ils ne veulent pas forcément aborder.
Ouais, qui pourraient fâcher.
Voilà, c'est ça.
On va vous libérer, Benoît Pagès. Donc, je rappelle, vous faites partie de l'ADR. Juste quelques chiffres, peut-être, pour rappeler un peu l'urgence de votre mission à l'ADR, et notamment à l'ADART, mais aussi, on peut parler de Terre de Liens, qui fait un peu ce travail aussi sur le foncier agricole. Quelques chiffres sur le fait que il y a des gens qui vont partir à la retraite, il y a des gens qui vont partir en retraite agricole, et les terres qu'ils vont laisser ne vont pas forcément aller à des petits. En tout cas, vous travaillez pour que ça aille à des petits producteurs. Quelques chiffres peut-être pour dire un peu l'urgence de votre démarche.
Oui, dans les 5 ans à venir, on prévoit en fait qu'il y a 40% de départ à la retraite dans le milieu agricole, et sur les 40% de départ à la retraite, il y en a à peu près 1 sur 3 pour lesquels il n'y a pas de repreneur. Donc ça veut dire que dans les années à venir, c'est soit on va tendre vers une agriculture avec de plus en plus de grosses fermes, soit on va arriver à maintenir en fait des petites fermes, donc qui vont travailler sur des produits de qualité. Donc l'enjeu, il est là aujourd'hui, c'est-à-dire dans les quelques années à venir, comment arriver à installer des jeunes agriculteurs sur le territoire, sinon ça partira vers de l'agrandissement et ça partira vers des fermes de plus en plus grosses avec des produits de moins en moins qualitatifs.
Et des modes de production qui sont loin des pratiques paysannes.
Tout à fait, et polluante aussi. Mmh. Voilà. Entre autres, sur le projet de Sivens, on dépose un projet pour la vallée du Tescou. On dépose un projet en fait où on propose à la Chambre d'agriculture, à la DR 82 et à la Chambre d'agriculture, donc 81-82, de travailler sur sur cette vallée-là qui va partir à la retraite, repérer en fait toutes les fermes pour lesquelles il n'y a pas de succession, et ensuite de mettre en face des gens qui veulent s'installer pour la reprise, pour éviter que ça parte à l'agrandissement, pour éviter à terme d'avoir une zone déserte entre Montauban et Gaillac.
Donc merci pour votre temps, on vous laisse, mais du coup on a compris que vous aviez pas mal de boulot, et on rappelle aux auditeurs et auditrices qu'ils ont rendez-vous ce mercredi 13 juin à 20h30 à la laiterie à Saint-Juéry. L'entrée est libre pour ce café paysan autour de l'ADART, pour discuter de quelle place ont les citoyens dans l'installation agricole autour d'une table et d'une discussion conviviale. Merci beaucoup Benoît Pagès.
Merci à vous.
Retrouvez plus d'infos sur ce rendez-vous et sur l'ADR ou l'ADART sur www.jeminstallepaysan.org/tarn pour ce qui concerne l'ADART. J'ai choisi
la clé des champs. L'agriculture paysanne, c'est une agriculture à taille humaine, hein, qui respecte l'homme, l'environnement, les animaux, qui permet aussi de correctement de rémunérer le producteur, l'agriculteur qui fait ça. Avec mon âme, que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin. Et aussi en relation avec les citoyens, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a pas mal de circuits courts aussi, conf.
Puis moi, ce que j'aime bien, c'est l'ouverture dans le monde, parce que on pense aussi à nos frères qui sont paysans de l'autre côté des frontières.
Pourquoi faire du lait pour exporter un kilo de lait en Chine? Enfin, quel intérêt? Il vaut mieux le faire là-bas. Enfin,
bon. On a une logique de ne pas exporter des produits qui vont défaire l'agriculture de locale.
En fait, avec derrière le gros projet, la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit des peuples à se nourrir d'eux-mêmes. Et aussi, faire une agriculture, oui, quand je dis de taille humaine, c'est-à-dire transmissible aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on soit capable, par exemple, quand on approche la retraite, qu'on ait envie de la transmettre aussi telle qu'elle est. Donc un outil pas trop lourd, en fait. Hein,
quand tu as des investissements qui sont colossaux, comment veux-tu qu'il y ait un jeune qui reprenne ton exploitation? Donc tout ça sera encore repris dans l'agriculture paysanne.
A noter que le bouquin « Graines de résistance, naissance et développement de la Confédération paysanne du Tarn » est toujours disponible et peut se commander sur le site tarn.confédérationpaysanne.fr. Merci à Ridan pour la musique.
Merci à Will pour cet entretien. Vous êtes bien dans votre émission Comme un lundi sur Radio Albigès, en deux mots et pas trois. Et comme troisième sujet, nous allons à présent parler du Salon du Jeu d'Albi. Nous avons rencontré plusieurs organisateurs et organisatrices de cet événement. Alors à vos marques, prêts, jouez.
Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche quoi?
Comme un lundi sur Radio Albigès.
Donc nous sommes ici à la Ludothèque Lamarelle à Albi, en plein cœur de la ville, en plein centre-ville, et je suis en compagnie de trois organisateurs du Glouz Festival, donc c'est le festival du jeu de la ville d'Albi. Donc je suis en compagnie de Philippe, Ludovic et Émilie, bonjour à vous.
Bonjour.
Et alors ben, pour commencer, est-ce que l'un ou l'une de vous peut m'expliquer c'est quoi le Glouz Festival, c'est quoi l'esprit du festival et pourquoi vous avez voulu le lancer sur Albi?
Alors le Glouz Festival, c'est un festival du jeu, donc l'idée c'est était de présenter un peu tous les types de jeux. Jeux de société, jeux en bois, jeux de rôle, jeux de figurines, parce que de plus en plus de gens s'intéressent de nouveau aux jeux pour se retrouver entre amis, en famille. Il y en a vraiment pour tous les âges, pour tous les goûts, tous les styles de jeux. Et l'idée, c'était de faire un festival pour présenter toutes ces pratiques du jeu et pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Du coup, un festival gratuit, accessible à tous, sur des horaires larges, avec tout type de jeux. Il y a de plus en plus de festivals de jeux en France. Il n'y en avait pas encore de festival d'importance dans le Tarn. Du coup, en 2014, il y a plusieurs passionnés au sein de la ludothèque qui se sont dit « Ah bah tiens, si on faisait un festival, il n'y en a pas dans le coin. » Il y avait l'image, le modèle du festival de Toulouse, Alchimie du jeu, qui est là un très gros festival. Et l'idée, c'était de faire pareil à l'échelle d'Albi.
Et donc, du coup, ça se passe quand? Est-ce que vous pouvez nous indiquer les informations pratiques très, très simples? Où, quand, comment on fait pour aller au festival du jeu d'Albi, donc? Émilie, peut-être?
Alors, ça se passe cette année le 15, 16 et 17 juin à la salle de la Mouline. Les heures d'ouverture seront pour le vendredi, ouverture à 17h jusqu'à 2h du matin. Samedi, 10h, 2h du matin. Et dimanche, 10h, 18h.
Et donc du coup, qu'est-ce qu'on pourra trouver sur place? Parce que vous parliez de plein de facettes du jeu. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura comme autant le jeu de société, mais j'imagine plein d'autres choses différentes.
Donc on va retrouver des espaces de jeu pour les petits, des espaces de bébés de tout premier âge, des jeux symboliques, des espaces inettes. On va retrouver des jeux de motricité, de construction, donc plutôt pour les enfants. Mais on va retrouver également des jeux traditionnels, des jeux en bois, adaptés là pour les enfants et adultes, des jeux de figurines, des jeux d'enquête également. On va retrouver, outre les jeux, des éditeurs et des auteurs qui viennent présenter donc les jeux, les nouveautés. Donc ça se passe à la salle de la Mouline. On va monopoliser à la fois les salles de la Mouline, mais également l'extérieur. Donc on aura également des jeux d'extérieur du style kermesse ou jeux comme le Molcu, etc. Voilà.
Grand classique, en espérant que le temps soit de la partie pour les jeux à l'extérieur. Du coup, vous avez parlé que ce festival met en commun de nombreux acteurs, que ce soit autant associatifs ou même vous. Je sais que c'est vous qui tenez la boutique Chapitre, oui, spécialisée dans le jeu de société. Est-ce que vous pouvez faire un petit tour un peu de tous ces partenaires qui travaillent à faire connaître plus le jeu de société, qui travaillent avec vous du coup sur ce festival?
Alors, il y en a beaucoup. Parce que dès 2014, l'idée, c'était effectivement aussi de rassembler les acteurs ludiques du coin, donc les associations, les boutiques, les clubs, les organismes publics aussi, comme les médiathèques, etc., de présenter un peu ce qu'elles faisaient, et puis aussi des acteurs qui sont pas que locaux, hein, avec des éditeurs, avec des auteurs, avec voilà, de rassembler un peu tout ce monde-là. Et donc, chaque année, il y a de plus en plus de partenaires. Donc cette année, on retrouve des éditeurs, soit qui tiennent directement des stands, soit qui envoient des lots pour la tombola, soit qui envoient des jeux à animer. Donc vous avez des éditeurs comme Yellow, Loki, vous avez aussi une toute nouvelle maison d'édition qui s'est créée là il n'y a pas longtemps, dans l'Aveyron, qui va présenter son premier jeu, qui s'appelle Créateur. Donc vous allez avoir à la fois des éditeurs qui existent depuis longtemps, et des toutes nouvelles maisons d'édition qui commencent à peine. Vous avez aussi des gros éditeurs comme BlackRock, vous avez plusieurs éditeurs. Vous avez des auteurs, alors soit des auteurs qui sont édités, mais surtout des auteurs qui ont créé des prototypes de jeux qui ne sont pas encore édités et qui vont de festival en festival pour faire tester ces jeux, donc pour avoir le retour du public, pour les améliorer, pour voir si ça marche ou pas, etc. Donc voilà, ils vont tester des jeux avant même qu'ils soient parus, donc ça c'est pas mal aussi. Comme partenaire, alors évidemment je parlais des partenaires locaux, donc peut-être les citer. Vous avez beaucoup d'associations, donc bon, déjà au premier chef la Ludothèque qui organise le festival. Vous avez d'autres associations comme l'association Détsan qui fait du jeu de cartes Magic. Vous avez des maîtres de jeu de l'association Fumble 80 qui fait du jeu de rôle. Vous avez une association de la fac, non, l'association Aléa, qui aussi va proposer des choses. Vous avez alors, un peu plus loin, vous avez une association qui s'appelle Troll Ludique. Alors eux, ils sont de Ramonville-Saint-Agne, mais chaque année, ils viennent nous donner un coup de main en envoyant des bénévoles. Vous avez un partenariat aussi avec, je le citais au début, le Festival de Toulouse, donc Alchimie du Jeu, qui nous prête du matériel aussi. Vous avez... enfin, il y en a plein.
Ils sont très nombreux. Ouais, je vois ça.
Alors, pour avoir une liste, vous pouvez aller sur la page Facebook du festival ou sur le site du festival. Donc, c'est mis à jour régulièrement avec tous les partenaires. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup chaque année. Okay.
Et vous avez parlé du Festival Alchimie. Alors, quand j'ai parcouru le dossier de presse, j'ai vu qu'il y avait aussi un lien entre vos deux festivals et notamment sur l'accès aux personnes handicapées. Alors, j'ai jamais encore fait le Festival du Jeu d'Albi, mais je suis déjà allé à Alchimie. Et je sais qu'ils mettent beaucoup en avant l'accès aux personnes handicapées, notamment avec toute une équipe de bénévoles qui est en langue des signes. Et donc, du coup, est-ce que c'est peut-être un vecteur d'intégration? Est-ce que vous le voyez comme ça ou...
Alors, bien évidemment, pour nous, c'est très important. Pour être honnête, cette année, on n'a pas eu de personne référente qui a pris en charge ce dossier. Donc, on ne propose pas sur le Glousse Festival cette année, malheureusement, une accessibilité, on va dire, pour les personnes malvoyantes, par exemple, ou au niveau des jeux, ou au niveau de services pour les malentendants. Malheureusement, on n'a pas eu les ressources et le temps de mettre en place ce genre d'accessibilité, mais voilà, on s'en excuse. Mais ça, bien évidemment, au sein de la Ludothèque, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. On accueille, nous, des institutions médicales. On essaye de faire au mieux, mais voilà, là on n'a pas eu les ressources.
Pour cette année. Il faut avoir les personnes formées et disponibles sur le moment pour l'organiser. Mais en tout cas, la volonté y est, c'est important de le mettre en avant quand même. Et alors, juste petite dernière question, je ne sais pas si c'est anecdotique ou pas, mais j'ai vu que parmi vos partenaires, il y avait aussi le mouvement pour une alternative non violente. Est-ce que c'est pour réfréner les mauvais joueurs un peu et les calmer?
Alors, peut-être, mais ils proposent du jeu coopératif. Voilà, d'accord. Du jeu coopératif où tout le monde peut participer dans la bonne humeur. Également comme partenaire, il ne faut pas oublier, on a les institutions qui nous soutiennent, que ce soit la mairie d'Albi ou le conseil départemental, donc voilà, sans qui ce ne serait pas possible d'organiser ce festival.
Ben, merci beaucoup à vous trois, donc Philippe, Émilie et Ludovic. Donc je sais qu'il y en a qui sont parmi de la Ludothèque, et Philippe, vous tenez la boutique Chapitre aussi au centre-ville, spécialisée dans le jeu de société. Et donc rendez-vous du 15 au 17 juin au domaine de la Mouline pour la 5e édition du Festival du Jeu d'Albi. Merci beaucoup à vous.
Bonne journée et bonjour à tous.
Vous êtes bien sur Radio Albigès dans votre magazine Comme un lundi, et à présent, on passe au bref.
Comment ça va? Comme un lundi. Je sais pas ce que j'ai. Je peux pas travailler.
Sur Radio Albigès, on fait tout pour vous faire aimer le lundi. C'est Comme un lundi. En bref, donc, l'homme qui nage plus loin que son ombre, ça ne veut rien dire, mais c'est comme ça qu'on pourrait appeler Benoît Lecomte. Ce sportif franco-américain a décidé de traverser l'océan Pacifique à la nage. Il s'est lancé le 5 juin dernier depuis la côte est du Japon et il devrait arriver à San Francisco d'ici 6 à 8 mois, rien que ça. Alors rassurez-vous, Benoît Lecomte est quand même accompagné par une équipe de 9 personnes sur un voilier. Il nagera tout de même 8 heures par jour avant de se reposer donc sur ce bateau. Il faut savoir que le même sportif avait traversé l'Atlantique dans les mêmes conditions en 1998. Il n'en est donc pas à son tour d'essai, mais la traversée de 98 représentait pas loin de 6000 km et celle du Pacifique 9000 km. À 51 ans, on peut dire que Benoît Lecomte est encore plutôt en forme, et en plus de l'exploit physique que représente cette traversée, l'intention est d'autant plus louable que le but est d'alerter sur la pollution des océans. On l'écoute.
Pendant que je nagerai 8 heures par jour, mon équipe fera des prélèvements pour étudier les plastiques, la radioactivité, l'acidification, sont le phytoplancton. On a 13 protocoles différents. On travaille avec 27 organisations scientifiques.
Bravo, monsieur Lecomte. Et on se dit donc à dans 8 mois à San Francisco.
Les poissons sont nos amis, on n'y touche plus.
Allez, à présent, dans votre magazine Comme lundi, on va faire un petit tour d'horizon des émissions que vous pourrez retrouver sur les ondes de Radio Albigès cette semaine. On commence avec un extrait du prochain blog de Jacqueline. Alors, pour rappel, c'est diffusé le mercredi à 11h et en rediffusion le jeudi à 8h le matin.
Jacqueline, notre infatigable bénévole au questionnement sur le monde jamais rassasié, était devant son poste de télé un soir de février 2018 et elle a eu un coup de foudre pour Salima Nagi. C'était dans l'émission Faut pas rêver sur la route des oasis au Maroc. Elle a donc fini par rencontrer Salima Nagi, qu'elle vous présente.
Aujourd'hui, mon invitée s'appelle Salima Nagi. Salima, bonjour.
Bonjour.
Donc, je vous ai invité pour plein de raisons. Pour la femme que vous êtes, hein, d'abord. Hein, vous êtes une très belle femme. Hein. Je vous ai découverte sur FR3, dans un film d'FR3, Des racines et des ailes. Et j'ai été conquise à la fois par ce que vous êtes et par ce que vous dites et... Troisième élément, parce que vous, quand je dis vous faites, ce que vous faites comme travail, je vais compléter, ce que vous dites de votre travail et ce que vous en faites, c'est-à-dire aussi des publications, un véritable métier. Donc, vous avez une... Est-ce qu'on peut dire que dans votre domaine, vous auriez, pour utiliser un mot à la mode, une pole position?
Est-ce qu'il y a une pole position dans le sauvetage des greniers collectifs marocains, des kasbahs, des citadelles fortifiées, je ne sais pas. Je crois que ça fait partie des parcours personnels où on va construire un objet sur la durée. Et au fond, où ensuite, on ne va pas savoir, et c'est lui qui va nous amener ici et là. Et ensuite, ben, on sera là parce qu'on a construit sa place à cet endroit-là. Et quand un pouvoir public va se soucier, quand un particulier va vouloir, quand il y aura une nécessité d'une communauté de sauver un site, ben, ils se tourneront spontanément vers vous. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qui s'est produit, finalement.
Et je vais rajouter, vous êtes marocaine.
Oui, je suis née à Rabat. Ma mère est arnaise, accessoirement, elle est née à Puloran. Elle est bien française. Mais je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc. Et nous avons eu la chance aussi d'être dans un pays très riche, très divers, que nos parents aimaient, où ils nous emmenaient partout, avec une mère qui avait appris l'arabe et qui avait voulu vraiment, pour ce qui est de ma mère, choisir le pays, choisir aussi une position sans doute délicate. Et elle nous a sans doute forgé, je pense, un regard sur ce patrimoine, et elle a sans doute su aussi nous donner cet amour. Donc je suis à la fois française et marocaine, mais j'ai choisi de m'inscrire au Maroc pour travailler. Maintenant, je travaille depuis plus de 20 ans, mais voilà, ça s'est fait spontanément, je dirais, ça s'est fait petit à petit.
Retrouvez l'intégralité de cet entretien de Jacqueline Falguérac avec Salima Nagi dans le blog ce mercredi 13 juin à 11h du matin et rediffusion le lendemain, jeudi 14 juin à 8h du matin dans le blog de Jacqueline sur Albitsis.
On continue donc ce petit tour d'horizon des émissions de Radio Albigès cette semaine avec un extrait de l'émission Livre-Lire diffusée mardi à 16h et vendredi à 8h le matin.
Et le dimanche à 12h30, ne l'oublions pas. Livre-Lire, c'est le créneau littéraire d'Albitsès et dernière nouvelle, c'est l'émission de lecture de Suzanne et Sylvie. Ce mois-ci, elle vous propose des lectures du recueil de Nadine Gordimer, Quelque chose là-bas.
Hassim, bon
La paix qu'on a, la paix chez l'icône.
Rose vit dans l'arrière-cour. Elle y vit depuis l'époque où elle lavait les couches des enfants qui, maintenant, sont étudiants à l'université. Son mari a disparu avant qu'elle prenne la place. Aussi loin qu'on s'en souvienne, son amant, Ephraim, qui travaille à la société de gardiennage Cerberus, vit avec elle dans la cour. Il était veilleur de nuit dans un garage et le matin, les enfants qui partaient à l'école après que Rose leur eut préparé le petit déjeuner rencontraient le mari de Rose dans son uniforme de coutil kaki qui passait le portail à bicyclette en rentrant de son travail. Les lobes de ses oreilles avaient de larges trous qui autrefois avaient dû être remplis par des anneaux. Son sourire était adouci par ses dents de devant mal plantées, ce qui, étant donné ce qu'il était, qui il était, le laissait complètement indifférent. C'est ce dont ils se souviennent le jour où ils apprennent qu'il est mort. La nouvelle se répand de bouche à oreille comme toutes les nouvelles dans les arrière-cours de la banlieue. Qui est en prison? Arrêté sans passe et doit être libéré sous caution. Qui a été prévenu de quitter son travail et son arrière-cour à la fin du mois? Qui a entendu parler de la naissance d'un enfant conçu pendant le congé annuel loin dans le pays? Il y a des cris et des pleurs dans la buanderie et la maîtresse de maison se dit que Rose a encore une cuite.
Avec la quarantaine, Rose a commencé à avoir ce que la famille et ses amis appellent un problème avec la boisson. En fin de compte, on n'a rien pu y faire. La maîtresse de maison a pensé que ce pouvait être à cause de la ménopause. Et son médecin a examiné Rose. Il a trouvé qu'elle avait trop de tension et lui a donné un traitement, en disant à son employeuse qu'elle devait cesser absolument de boire. Cela a aggravé l'hypertension. La maîtresse de maison s'est renseignée. Elle a entendu parler d'une église méthodiste qui dirigeait une association non raciale, les Alcooliques Anonymes, dans le programme de sa communauté. Et elle a accompagné Rose en voiture aux réunions hebdomadaires dans une salle paroissiale. Par euphémisme, Rose appelle les Alcooliques Anonymes « mon club ». Et elle n'est plus jamais pompette et ne jongle plus avec les assiettes chaque soir à l'heure du dîner. Mais tous les deux mois environ, elle a une cuite d'une semaine. Il n'y a rien à faire. La maîtresse de maison, la famille, les enfants qui ont grandi et pour qui Rose a gardé l'innocence de l'enfance, ne peut la jeter à la rue. Elle n'a nulle part où aller. Si on la renvoyait, quelle sorte de référence pourrait-on lui donner? On ne peut se parjurer à propos de la plus importante des trois exigences d'employeur éventuel: l'honnêteté, le zèle, la sobriété. Au cours des années, Ephraim a été entraîné dans des discussions sur l'ivrognerie de Rose. Évidemment, si quelqu'un est capable de l'aider, ce doit être lui, son amant. Quoique, parler d'amant à propos de ces deux-là... Les hommes doivent toujours avoir une femme. Les femmes semblent toujours trouver un homme. Si ce n'est pas celui-ci, un autre fera l'affaire. La maîtresse de maison représente l'autorité, qui, de temps en temps, est allée dans la cour pour parler à Ephraim. Le maître de maison n'a pas le temps ou la manière pour les questions domestiques. « Ephraim, qu'allons-nous faire pour Rose ?»« Je sais, madame. »« Ne peux-tu l'aider à s'arrêter? Ne peux-tu veiller à ce qu'elle ne garde pas d'alcool dans la chambre ?»« C'est une petite chambre avec deux grosses personnes qui y vivent, Rose et Ephraim. Il ne doit pas rester beaucoup de place pour cacher de l'eau-de-vie et des bouteilles de bière. »« Mais elle va au coin de la rue. »« Bien sûr, des buvettes clandestines dans chaque ruelle. » Que pouvons-nous faire alors, Ephraim? Tu ne peux pas lui parler? Qu'est-ce que je peux faire? Je parle. Moi, je ne bois pas. Madame m'a jamais vu sous. Je sais, Ephraim. Et voilà qu'on dit qu'Ephraim est mort. Et Rose pleure et hoquette dans la buanderie. La maîtresse de maison ne sait pas si Rose était dans la buanderie quand un des frères d'Ephraim, c'est-à-dire un camarade de travail, comme dit Rose, de la société de gardiennage Cerberus, est venu avec la nouvelle. Ou si la buanderie, cet endroit humide avec des copeaux de savon gras, des cintres en fil de fer et des toiles d'araignée, était l'endroit où elle avait trouvé refuge. Comme tout le monde, un endroit où le paquet de souffrances doit être déballé dans la solitude après livraison. Rose est assise sur un seau, et l'eau qui coule de ses yeux et de son nez transforme en boules de papier mâché les mouchoirs de papier de la marque Bouquet de fleurs qu'elle a pris. Après tant d'années de service, on ne peut pas appeler ça un vol, dans la salle de bain de la maîtresse de maison. Ephraim est mort depuis une semaine, bien que la nouvelle arrive seulement maintenant. La semaine dernière, il était allé en congé chez lui, dans son village, près d'Umzinkulu. L'autocar dans lequel il voyageait s'est renversé et il était parmi les tués. Sa bicyclette, avec une chaîne et un cadenas à la roue arrière, est là où il l'a rangée jusqu'à son retour, à côté de la machine à laver, avec son œil obscur de sous-marin.
Et maintenant, que faire maintenant ?
Ben, on reste calme et on continue d'écouter Comme un lundi sur Radio Albitis.
Un extrait donc de l'émission Livre-Lire que vous pourrez écouter sur les ondes de Radio Albigès ce mardi à 16h et vendredi à 8h du matin.
Bonjour, bonjour.
Ah, bonjour de la batte.
Vous allez bien ?
Comme un lundi.
Ah, elle est pas mal celle-là. Ah, j'aime bien.
Comme un lundi.
Vous êtes toujours dans votre magazine Comme un lundi sur Radio Albigès et il est l'heure de vous dévoiler la solution à cette énigme. Évidemment, vous êtes penché dessus pendant toute l'émission, on le sait. Alors, pour rappel, cette énigme, c'était donc « J'ai deux pieds, six jambes, huit bras, deux têtes et un œil, qui suis-je ? Je suis. Eh bien, je suis un menteur, bien sûr. Bon, allez, ça c'est fait. » Merci à vous d'avoir suivi ce magazine sur Radio Albigès. Alors si ça vous a plu ou pas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Envoyez vos remarques, vous pouvez nous contacter en allant sur le www.radioalbigès.com. À cette même adresse d'ailleurs, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission et de beaucoup d'autres émissions diffusées sur Radio Albigès. Merci de votre écoute et on se dit à lundi prochain sur Radio Albigès. Adicias.
C'est l'11 de Tsun, festal à San Barnabé, tal sun kawaii.
Le 11 juin 1954, l'usine Isogil était inaugurée à La Bruyère. Cette usine allait produire journellement 30 tonnes de tanin et 220 tonnes de panneaux de bois agglomérés. Elle fonctionnait 24 heures sur 24, les 585 ouvriers faisant les 3-8. L'usine avait été créée en 1903 par la Société des produits chimiques de Saint-Chamond pour la fabrication du tanin. Le tanin était utilisé dans les tanneries, pour l'épuration des eaux et les forages pétroliers. La ville de La Bruyère est à proximité de la montagne noire où l'entreprise allait puiser sa matière première, le bois de châtaignier. De plus, l'eau du Toré était utilisée pour le traitement de ce bois et la voie ferrée permettait l'expédition du produit fini. Il fallait 20 tonnes de bois réduits en copeaux pour extraire une tonne de tanin. Après le traitement, les copeaux étaient brûlés. En 1954, l'usine Progil Isogil va utiliser ces copeaux pour la fabrication de panneaux de bois agglomérés. Mais le tanin chimique va remplacer le tanin naturel. Alors, la nouvelle société, créée en 1995, la Tarnaise des panneaux, se consacre uniquement à la confection de panneaux d'isorel de toutes essences. L'usine utilise toujours le bois de la montagne noire. 2 tonnes d'arbres donnent 1 tonne d'isorel. 200 tonnes de panneaux d'isorel sont produits chaque jour. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles et comme intercalaires pour l'expédition des bouteilles d'eau minérale. 50% de la production est commercialisée en France, 25% en Italie, 25% dans les autres pays, notamment en Belgique. L'usine compte 116 ouvriers, mais il faut noter que chaque emploi de l'entreprise génère 3 emplois à l'extérieur. L'usine de la Bruyère consomme 100 000 kW d'électricité chaque jour. Ses chaudières brûlent des déchets de bois broyés. Elle est raccordée à la station de lagunage de la ville.
Un copero sedizio, agasso trozza pairo, gran ben trigo pass.
Pi, trop bavarde, gran van ne tarde.
Agasso trozza pairo, gran ben trigo pass.
Ensuite, votre agenda sur Radio Albigès.
Avec le Tarn Info Citoyen. L'association Cavaluna reconduit l'opération Au pied de mon immeuble dans le quartier du Rajol à Carmo. Rendez-vous tous les mercredis matins de 10h à midi jusqu'au 27 juin au programme de nombreuses manifestations, nombreuses et variées donc, pour se retrouver entre voisins en toute simplicité et avec un brin de convivialité. Activités artistiques et sportives vous seront proposées. Vous pourrez aussi participer à la préparation de la fête du quartier qui aura lieu le samedi 30 juin prochain. C'est bien sûr gratuit et ouvert à toutes et tous. Pour plus d'infos, contactez Cavaluna au 06 51 63 66 52. 06 51 63 66 52.
Radio Albigès et le Bolega Son vous offrent votre place pour le concert de The Limignanas. C'est ce vendredi 15 juin à partir de 20h, donc au Bolega Son de Castres. A noter la présence du groupe JC Satan en première partie. Vous pouvez gagner votre place donc en appelant Radio Albigès au 05 63 60 60 36. 05 63 60 60 36. Laissez vos coordonnées si par hasard vous tombez sur le répondeur. Ne manquez pas cette soirée consacrée à la scène française du Rock Garage. Appelez donc Radio Albigès au 05 63 60 60 36 pour tenter de gagner votre place. Et rendez-vous sur le site internet bolegason.org si malheureusement vous n'arrivez pas à remporter votre place mais que vous souhaitez quand même assister au concert.
Ce mardi 12 juin, la Maison de la Citoyenneté de Carmo accueille le dernier café citoyen de la saison organisé par l'association La Nouvelle Arcadie. Rendez-vous à 19h pour une discussion autour du thème « L'art peut-il changer le monde ?». C'est ouvert à tout le monde et une auberge espagnole clôturera la soirée. Comme à chaque fois, l'entrée est gratuite et libre.
Les balles du mardi à la salle Bouzinac à Gaillac, ce sont des rencontres mensuelles entre musiciens et danseurs autour de la musique traditionnelle. C'est proposé par Gaillac, l'association culturelle de l'école Calandretto de Gaillac. Ces rencontres sont proposées chaque deuxième mardi du mois à la salle Bouzinac, donc à partir de 20h30. Et la prochaine, c'est donc ce mardi 12 juin. Ces rendez-vous mensuels ont pour but de permettre à chacun et chacune de pratiquer, découvrir et se perfectionner sur les danses traditionnelles, sur de la musique jouée en direct. Venez donc participer à ce rendez-vous convivial en soutien à l'école Calandretto de Gaillac et l'association Gaillac. Rendez-vous ce mardi 12 juin à 20h30, salle Bouzinac à Gaillac.
Ce mardi 12 juin, à partir de 20h30 sur Radio Albigès, retrouvez comme d'habitude l'équipe de l'émission Le Local à Bohème en compagnie cette semaine du groupe folk Unlucky. Rediffusion le jeudi suivant à 22h sur les ondes de Radio Albigès et sur la radio copine Radium, la radio active de Castres. C'était l'agenda de Radio Albigès.